problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez RMC.
Et Julien Laurence, notre spécialiste de l'Angleterre. Bonsoir Julien.
Bonsoir à tous.
Salut Julien, merci beaucoup d'être avec nous tardivement pour nous parler de ce Boxing Day qui a déjà dû être intense pour toi. Est-ce que tu as un élément de réponse justement sur cette préparation physique de Liverpool? Est-ce que les questions se posent en Angleterre parce qu'on a l'impression que l'effectif est plus réduit par exemple que celui de City, et pourtant ils tiennent la cadence?
Oui, ils tiennent la cadence. Ils ont un très très bon préparateur physique qui s'appelle Andreas Kornmayer, qui a passé 15 ans au Bayern Munich notamment, avec Louis van Gaal, avec Jupp Heynckes, avec Pep Guardiola, qui est arrivé à Liverpool à l'été 2016 parce que Klopp le voulait absolument pour justement, il l'avait identifié comme étant l'homme capable de mettre cet effectif-là aux normes kloppesques entre guillemets, qui lui permettrait donc à cet effectif-là, de jouer sur la cadence que Klopp voudrait qu'il joue, c'est-à-dire avec cette intensité-là, comme on l'a dit, avec le ballon, sans le ballon, bien sûr. Avec le fameux gegenpressing et récupérer la balle entre 5 et 8 secondes après l'avoir perdue. Et pour ça, il fallait que Klopp trouve le bon fitness coach, comme on dit ici en Angleterre, ce préparateur physique qui permettrait à son effectif d'être à ce niveau-là physique. Et c'est vrai qu'ils font un travail assez important, notamment en pré-saison, c'est sûr, avec parfois jusqu'à 3 entraînements.
3 séances par jour.
3 séances par jour en préparation, comme Mauricio Pochettino, par exemple, peut le faire à Liverpool aussi. Ça commence très, très tôt le matin et ça finit très tard le soir. Mais c'est vrai que physiquement, ils sont largement au-dessus de tout ce qu'on peut voir ici en Angleterre et même en Europe aussi, je pense. Alors, ça tiendra peut-être pas toute la saison. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a quelques blessés qui commencent à arriver, ce qui n'était pas le cas lors des 3 premiers mois de la saison. Mais c'est vrai que outre Kornmayer, ils ont aussi tout un staff médical et un staff technique qui fait en sorte que les joueurs au niveau de la nutrition aussi, au niveau du repos.
Et quand on parle de blessures, c'est blessures.
Ces joueurs-là,
il faut distinguer les blessures, pardon Julien, mais les blessures musculaires de des autres.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que comparé par exemple au PSG, qui a lui aussi un préparateur physique allemand, où tu peux comparer un petit peu la philosophie de Thomas Tuchel et celle de Jürgen Klopp, parce que ils se sont suivis notamment à Mayence et puis après à Dortmund, où le PSG a énormément de blessures musculaires, notamment aux ischios, oui. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple à Liverpool.
Et Julien, la différence qu'il y a entre les joueurs que tu as aujourd'hui au PSG et les joueurs que tu as à Liverpool, c'est qu'à Liverpool, tu as des joueurs qui sont prêts à faire dans les efforts mentalement. Ça leur coûte pas, en fait. Alors que au PSG, les joueurs aujourd'hui, ça leur coûte de faire des efforts défensifs. Quand tu vois encore là, ils ont pris Minamino de Salzbourg. Tiens, c'est bizarre. Salzbourg, ils pratiquent exactement le même style de jeu que Liverpool. Pareil pour Naby Keita, pareil pour Sadio Mané. En fait, ce sont des joueurs qui sont déjà dans l'état d'esprit Klopp une fois qu'ils arrivent là-bas. Et il faut juste ensuite ajuster et les mettre.
Ça, quand même, la transformation entre la Roma et Liverpool, elle est quand même flagrante.
Ah, mais tu sens que c'est joueur qui aime faire des efforts.
Ouais. Salah, c'est un cas à part dans le sens où même Klopp lui-même reconnaît et admet que lorsqu'ils ont recruté Salah, personne au club et même Salah lui-même non plus n'aurait pu penser qu'il allait évoluer de la façon dont il a évolué, qu'il allait se transformer en ce buteur assez exceptionnel lors des deux dernières saisons, deux saisons et demie même. Même Klopp l'avait pas vu venir Salah. Alors c'est un cas un petit peu particulier, mais sinon Damien, tu as tout à fait raison sur Minamino notamment, toi qui as fait aussi partie de cette école Red Bull, tu sais très bien comment ça marche. Et Jesse Marsh, qui est l'entraîneur du RB Salzbourg, l'américain, et lui aussi est l'exemple principal de ce que fait le groupe Red Bull. C'est pas du tout une coïncidence ou un accident que Liverpool soit encore allé chercher un joueur qui ait fait partie de cette
écurie.
De cette écurie-là, parce que c'est exactement comme tu l'as dit, l'état d'esprit et le côté physique et dans l'intensité, ce qui correspond parfaitement à Liverpool.
Julien, pour en terminer avec Liverpool, tout à l'heure Jonathan se posait la question de savoir si les joueurs qu'ils recrutaient étaient ciblés comme étant des joueurs ayant, alors outre passer par des écoles similaires à ce que réclame Jürgen Klopp, mais comme des joueurs ayant des gros coffres, c'est le cas. Il y a à Liverpool une volonté d'avoir des marathoniens.
Tout à fait. Et Minamino, d'ailleurs, en est le meilleur exemple, puisqu'en Ligue des Champions, cette saison avec Salzbourg, il courait environ 12 km par match pour un numéro 10.
Ah ouais, c'est énorme.
Ou un joueur qui peut jouer sur un côté, c'est assez incroyable. Et charisment plus que n'importe quel autre joueur dans la Ligue des Champions.
À ce rythme-là, ils vont recruter Santa Maria.
Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui compte énormément dans le scouting et dans le recrutement déjà de Liverpool, puisque c'est des joueurs, ils s'appuient énormément sur les données informatiques des joueurs, sur les stats. C'est un club, Liverpool, qui est vraiment très intéressant avec Michael Edwards, leur chef du recrutement, qui s'appuie énormément. L'un des premiers clubs à l'avoir fait, hein, sur le fameux Moneyball de Billy Bean et de ce fameux ce qu'on pouvait trouver au niveau du baseball, à s'appuyer énormément sur les statistiques pour recruter des joueurs et pas simplement sur ce que tu vois toi à l'œil nu ou ce que tes recruteurs peuvent voir à l'œil nu. Et Minamino notamment en fait énormément partie, et c'est un joueur qui suivait depuis très longtemps et qui sont allés donc chercher pour très peu d'argent au RB Salzbourg.
Merci beaucoup, voilà pour la page Liverpool, les joueurs des Reds qui semblent partis pour remporter cette première ligue. Julien, on parle un peu de Manchester qui a gagné son match cet après-midi 4-1 face à Newcastle. Belle démonstration.
United.
City joue demain. City joue demain, ouais. United. Démonstration de la part de United et notamment le retour de Paul Pogba.
Oui, effectivement, Paul Pogba qui est entré à l'heure de jeu, à la mi-temps, à la pause, c'est aujourd'hui, alors que il y a trois jours, il était entré à la 65e minute de jeu, donc son temps de jeu monte, ce dont à quoi on s'attendait, lui qui n'avait plus joué depuis le 30 septembre. Petit à petit, je pense qu'il sera capable sûrement de débuter le prochain match de championnat à l'extérieur à Burnley. Mais là, c'est vrai qu'on l'a vu une mi-temps, c'était plutôt positif encore dans un match que United a contrôlé du début à la fin, même si c'est Newcastle qui avait ouvert le score avec Longstaff un petit peu contre le cours du jeu déjà. Les Red Devils ont rapidement remis les choses en ordre avec un doublé de Martial qui a été très bon encore, Rashford aussi buteur, et puis donc Pogba. Seconde période assez aboutie encore une fois pour lui, comme contre Watford lors du dernier match, même si cette fois il y a la victoire au bout, et c'est vrai que son retour va faire énormément de bien à Manchester United.
Messieurs, cette période de blessure de Paul Pogba, est-ce qu'elle est positive pour l'équipe de France, ouais, dans le sens où il a peut-être, après avoir fait des saisons très pleines, eu l'occasion de se recharger en termes d'influx et puis aussi de souffler un petit
positive.
Peu
positive, c'est on va pas, voilà, c'est dur à dire, mais en tout cas est-ce que c'est pénalisant pour l'Euro s'il revient maintenant là et qu'il recommence l'année 2020 et qu'il fait 6 mois? Non, je pense pas que ce sera pénalisant.
Mais justement, la question est clairement, est-ce que c'est positif dans le sens où ça peut le booster, Damien? Est-ce que t'as connu ces périodes éloignées des terrains où tu reviens avec deux fois plus d'envie et en te disant, bah voilà, j'ai une saison pleine à venir parce qu'en fait j'ai une demi-saison avec mon club puis un Euro.
Après, la situation de Pogba, elle est difficile contractuellement aussi. On ne sait pas trop ce qu'il va faire l'été prochain.
Partir.
Il va certainement vouloir partir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'on est blessé sur un certain pour 2-3 mois, dans son cas, il me semble. On a toujours, dans un premier temps, une bouffée d'énergie où on va jouer sur les 3, 4, 5 premiers matchs sur l'énergie. Ensuite, on va avoir un creux. Et là, par contre, c'est ce creux-là qu'il va falloir bien gérer au niveau des matchs. Et ensuite, on revient à un niveau normal. Ouais. Et c'est pour ça que je pense que là, janvier, c'est parfait. Voilà. Il va descendre et il va être bien pour l'Euro, quoi.
Quand t'es un sélectionneur, pardon, que t'as un de tes joueurs comme ça qui reprend maintenant. Oui, et qu'avec ta compétition qui va démarrer début juin, oui, c'est parfait. Le timing est bien choisi, même si c'est pas un choix.
François, on parlait d'aspect contractuel de ce joueur essentiel à l'équipe de France.
Que ça va le polluer.
Didier Deschamps, il va lui passer un coup de fil en lui disant règle-le avant l'Euro.
Sauf si ça traîne et qu'il sent à l'occasion des prochains rassemblements
qu'il est pas
concentré, s'il le convoque, qu'il est pas dans le coup, il le fera. Mais sinon, avec un type comme Pogba, je pense pas qu'il ait besoin de le faire.
Non, ouais.
Julien, du côté de l'Angleterre, pour Paul Pogba, pour son avenir, quelles sont les dernières infos, les dernières rumeurs éventuellement?
Alors Mino Raiola, son agent, a donné une interview, ce qui est très rare de la part de Mino Raiola, dans le Télégraphe, le journal, le quotidien anglais, la semaine dernière, en disant que Pogba voulait rester à Manchester, qu'il était heureux à Manchester. Faut pas toujours croire ce que Mino Raiola nous dit. On en a fait l'expérience par le passé, donc il faudra voir. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Paul Pogba, même s'il est très heureux à Manchester United, qu'il aime beaucoup le club, l'effectif, les supporters, tout ce que vous voulez, lui, son rêve, bien sûr, comme il l'a déjà dit par le passé, c'est d'aller un jour au Real Madrid. Ça pourrait se faire, selon moi, cet été, même si le Real Madrid ne pourra pas tout faire non plus. Ni Mbappé, pas Mbappé et Pogba ensemble, peut-être. Donc, ce sera à voir, mais il lui reste encore 2 ans et demi de contrat à Paul Pogba. N'oublions pas, hein, la dernière année de contrat, elle peut être levée uniquement par le club. Si Manchester United le souhaite, ils peuvent lever une année supplémentaire de contrat.
Donc ça ferait 2 ans et demi ou 3 ans et demi?
Un petit peu. Non, ça ferait 2,5. Donc là, il lui reste 18 mois sur le contrat actuel.
Ok.
Plus une année supplémentaire que Manchester pourra lever sans aucun souci. Et simplement, eux, ce ne sera pas un commun accord.
Même s'il le vend. Bah oui.
Exactement. Donc c'est pour ça. Deux ans et demi, ça fait forcément.
C'est plus cher.
Long que 18 mois, mais c'est plus cher aussi.
C'est bien, Julien.
À 150 millions d'euros. Je pense que c'est le prix fixé par Manchester United. Mais pour un joueur comme Pogba, qui est né en 93, donc ça reste un joueur assez jeune. Et c'est un montant, je pense, assez logique.
Ouais, ok.
Julien Laurence, notre spécialiste de l'Angleterre. Un mot d'Arsenal. Tiens, Julien, on rentre dans le vif du sujet avec cette première de Mikel Arteta. Un match nul, finalement, un peu décevant à Bournemouth quand on s'appelle Arsenal.
Un peu décevant dans le résultat, effectivement, hein, dans le fait de prendre simplement un point contre une équipe de Bournemouth qui n'avait gagné qu'un seul de ses 10 derniers matchs de championnat. En revanche, j'ai trouvé sur le terrain beaucoup de changements de la part d'Arteta. Déjà, ce qui était assez fascinant, je trouve, hein, parce qu'on le rappelait hier soir, il a eu finalement très peu de séances d'entraînement avec ce groupe pour lui. Mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses tactiquement qui avait changé, beaucoup d'innovations. On a par exemple vu des latéraux avec des positions très intéressantes. Maitland-Niles à droite qui est beaucoup entré vers le centre, comme Guardiola l'avait souvent fait avec ses latéraux inversés, si vous voulez. On a vu un arrière-gauche, Saka, le jeune Saka, jouer très haut avec Granit Xhaka, lui qui jouait milieu terrain défensif, mais qui est souvent avec le quand Arsenal avait le ballon pour reconstruire de derrière, qui s'est lui positionné en arrière-gauche. On a vu aussi Ozil et Aubameyang jouer beaucoup entre les lignes. J'ai trouvé les deux quasiment en soutien de Lacazette, qui retrouvait sa place de titulaire en pointe. C'était vraiment intéressant, j'ai trouvé, dans ce que Arteta a essayé de faire ce soir. Alors il reste beaucoup de travail, c'est sûr, mais dans la façon dont ils ont construit leurs attaques, sans toujours vouloir repartir de derrière, c'était un petit peu le problème avant avec Ljungberg et Emery. Même parfois ils se tiraient une balle dans le pied à vouloir à chaque fois systématiquement repartir de derrière. Cette fois ils ont su jouer long aussi, mais c'est vrai, j'ai trouvé très, très intéressant au niveau du positionnement de certains.
Il y a deux choses, Julien. La première, c'est moi ce qui m'a frappé, c'est la relation technique entre Torreira et Ozil. Je trouvais que c'était assez intéressant et prometteur. Dans l'axe, les deux se trouvaient bien et les transitions étaient assez fluides. Et surtout, alors du coup là, c'était quoi? C'était un 4-2-3-1 avec Ozil derrière l'attaquant.
Voilà.
Bah franchement, ce qui est positif, c'est pour Nicolas Pepe, quoi. Parce que même s'il est, il a pas commencé le match, il est rentré en cours de jeu. Je le vois bien dans ce schéma-là arriver à enfin faire son trou en jouant à la place de, c'était le numéro 24 dont j'ai oublié le nom, le joueur qui remplace.
Rhys Nelson. Ouais.
Voilà.
Ouais. Rhys Nelson.
Ça lui laisse quand même un petit peu plus de possibilités. Je sais pas ce que t'en penses, mais.
Oui, c'est vrai. Le problème après, enfin, c'est que c'est pas forcément problème, mais il part un petit peu loin parce qu'il a peu joué ces dernières semaines, malheureusement pour lui, parce qu'il a ce manque de confiance dont on parlait déjà hier soir, qui lui fait énormément défaut, parce que c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance, comme on avait pu voir la saison dernière, et dans un style de jeu, celui d'Arteta, avec beaucoup de possession, qui lui convient peut-être pas forcément, où il va jouer beaucoup de haut but adverse, avec un défenseur sur son dos toujours, où sa première touche de balle, son contrôle va être crucial dans ce qu'il va faire par la suite, ce qui est très différent de la façon dont il jouait la saison dernière avec Lille, beaucoup en contre-attaque, avec beaucoup d'espace devant lui, où il avait cette vitesse-là avec le ballon et aussi sans ballon, avec Ikoné et Bamba aussi, ce qui lui permettait de s'épanouir énormément. C'est pas le cas aujourd'hui, mais il va travailler avec Arteta, ça va venir. Mais c'est vrai que le schéma tactique d'Arteta aujourd'hui, qui était quasiment parfois, on avait l'impression, un 2-3-2-3 finalement, pourrait aussi lui convenir.
Max a fait le 32-16 pour nous rejoindre. Il est supporter d'Arsenal. Bonsoir, Max.
Bonsoir, les gars.
Salut, Max.
Bienvenue dans l'After. Pour toi, cette formation d'Arsenal a encore évidemment beaucoup de chemin. On l'imagine, hein, Mikel Arteta va pas tout régler en une journée. Mais t'es pas aussi optimiste peut-être que l'était Julien?
Non, mais je trouve que en fait parler d'optimisme ou du fait justement d'être pessimiste à ce stade-là, c'est un peu prématuré. Il faut surtout laisser du temps. Moi, ce qui m'a plu, c'est le profil d'Arteta. J'aime beaucoup un entraîneur qui s'est formé avec Guardiola. Donc c'est un entraîneur qui en plus a été un joueur sous Arsène Wenger. Donc c'est quelqu'un qui est à même de comprendre qu'un club comme Arsenal a besoin d'une vraie identité dans le jeu, une identité de club, et c'est quelque chose qui s'est un peu perdu ces derniers temps, même dans les dernières années de Wenger. Donc ça me plaît. Après, moi, j'attends de voir, surtout si on lui laissera le temps, parce que c'est un jeune entraîneur qui va avoir besoin de travailler sur le long terme pour pouvoir réussir à imposer son jeu. Et la doublette, voilà, des dirigeants Arsenal, Stan Kroenke et Chips Keswick, je ne sais pas s'ils vont lui laisser ce temps-là, s'il y a un moment ou une période où les résultats seront un peu moins bons d'ici peut-être un an et demi, deux ans. Donc moi, c'est surtout ces interrogations-là, mais c'est plus que être optimiste ou pessimiste, c'est des interrogations, effectivement, que moi je me pose. Après, j'ai été ravi de voir les premiers changements, comme disait Julien. Voilà, on attend de voir, mais en tout cas, j'espère que ça ira vers du mieux. Il y a aussi des choses, il y a des choses qui vont changer, des joueurs qui doivent changer aussi.
Julien, est-ce que Mikel Arteta aura du temps ?
Oui, il aura du temps. Il a signé un contrat de 3 ans et demi parce que le club sait très bien que vu l'état dans lequel l'équipe est actuellement et l'effectif, il va falloir du temps à Arteta, mais aussi il en aurait fallu à n'importe qui pour reconstruire un petit peu et retrouver, comme vient de le dire Maxime, son identité. Et ça prendra du temps quoi qu'il arrive, et plusieurs marchés des transferts aussi, même s'il n'y aura pas toujours beaucoup d'argent à dépenser. Et ensuite, parce que justement le club sait très bien que c'est la première expérience d'Arteta en tant qu'entraîneur numéro 1, et que tu deviens pas Guardiola en un claquement de doigts non plus. Donc il faudra du temps pour que Arteta lui-même apprenne de ses erreurs, apprenne de cette expérience-là. Tout ça est nouveau, donc c'est logique.
Oui, s'il le devient, parce que la transition est tellement hasardeuse. Et la deuxième chose, c'est avec quel effectif, parce que bon, il va pas faire grand chose sur ce mercato hivernal. Il va falloir attendre les prochains.
Il y a des priorités évidentes, hein, là, je pense.
Donc,
non, mais par exemple, quand je vois le premier match de Silvinho avec Lyon, ou le premier match de Thierry Henry avec Monaco, qui sont deux entraîneurs comme Arteta, qui n'avaient aucune expérience en tant que numéro un avant ces premiers matchs-là, et que je regarde le match d'Arteta aujourd'hui, certes, il y a pas de victoire, certes, ça a été un petit peu compliqué parfois. Il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses différentes, que des innovations, que des choses que t'as aimé. En tout cas, moi, en analysant le match, en le regardant, que j'ai aimé voir.
Oui, c'est sûr. Ouais.
Parce qu'Arteta, il arrive, et puis d'entrée, après 4 jours d'entraînement, il dit bah voilà, on va faire comme ci, comme ça, toi tu vas jouer comme ci, comme ça. Et c'est des choses complètement différentes de ce qu'on avait pu voir avec Ljungberg, déjà forcément, mais aussi avec Unai Emery avant.
Mais on voit des comportements complètement différents de la part des joueurs, dans l'implication, je trouve.
C'est vrai.
Tu as raison. C'est le jour et la nuit entre ce qu'on a vu à Everton la semaine dernière.
Quand il y a un changement d'entraîneur, c'est souvent le cas. C'est vrai, Julien a raison.
Vraiment attention là-dessus.
Tactiquement, c'était quand même assez intéressant. Après, je pense que Arsenal, enfin, il manque pour finir la saison, hein, et pour sauver les meubles sur la saison, je pense qu'il y a deux priorités, c'est de prendre un défenseur central et un milieu de terrain pour relayeur, plus pour jouer avec Torreira à la place de Granit Xhaka, et ton équipe, elle reste quand même assez compétitive.
Un central rapide.
Ouais, un central rapide, ouais.
Max, hier, on a fait un after un peu cadeau de Noël. De quoi tu rêves, là, pour ton club, si tu pouvais leur faire arriver un joueur, un directeur sportif, je sais pas.
J'ai deux joueurs. Enfin, déjà le meilleur cas de Noël, c'est dégager Ozil, parce que même si ce soir il s'est plus
impliqué, pas mal ce soir.
Non, mais c'est Ozil, c'est de la poudre aux yeux. Il joue bien maintenant parce qu'il y a un nouvel entraîneur. Dans 4 matchs, il courra plus. Donc moi, j'en peux plus. Qu'il aille à Fenerbahçe, c'est parfait.
Non, on pourrait. Vu son salaire, c'est dur. Hein.
Par Thomas Partey. Moi, j'aime beaucoup Partey. Je trouve qu'il a vraiment. Ça marcherait très bien.
À place de chacun.
Et sinon Koulibaly.
On en a entendu parler hier dans le Mercato Show, ça paraît difficilement faisable. Merci beaucoup Max d'avoir été avec nous.
Max.
On te souhaite une belle seconde partie de saison avec Arsenal. Et nous, on va continuer à dérouler avec Julien l'actualité de la Première Ligue. On a parlé de la première d'Arteta, première réussie pour Ancelotti avec une victoire à la tête d'Everton à domicile face à Burnley, avec notamment un bon Djibril Sidibé. Ça fait partie des satisfactions côté Everton.
Ouais, des satisfactions, tu as raison. Alors on a vu, hein, on parlait beaucoup de tactique pour Arteta, on a vu aussi quelques changements avec Carlo Ancelotti, une défense à 3 cet après-midi contre Burnley, qui a plutôt bien réussi, même s'il n'y avait rien de transcendant non plus, rien d'exceptionnel dans le contenu de la rencontre. Ils ont marqué à la 80e minute, comme tu l'as dit, un passe de Sidibé et une tête de Calvert-Lewin. Il y avait du mieux aussi dans l'état d'esprit des joueurs, ça jouait un petit peu mieux aussi parfois, mais rien non plus d'extraordinaire. Ouais. Je pense qu'il faudra un petit peu comme avec Arteta, il faudra un petit peu plus de temps à Ancelotti pour vraiment imprégner sa patte sur cette équipe-là. Mais le changement tactique déjà a fait du bien, et puis c'est un deuxième match de suite sans concéder de but après le 0-0 contre Arsenal lors du dernier match et contre Burnley. Même si Burnley à l'extérieur, c'est pas non plus transcendant, c'est quand même un bon début pour Ancelotti avant les matchs qui arrivent, qui vont se compliquer largement pour lui avec un déplacement à Newcastle lors du prochain match, et puis après Manchester City City et Liverpool, back to back comme des Anglais d'affilée, en championnat et en Coupe d'Angleterre.
Énorme match de Seamus Coleman.
Il va falloir
on pose le défenseur central en plus,
ouais,
hein,
ton ami
irlandais.
Donc, ouais. Bah, c'est le capitaine, c'est notre capitaine.
Tout à fait. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, hein, il avait perdu sa place, donc.
C'est bien, il va avoir le rythme.
C'est la touche Ancelotti aussi.
Et ouais, il va pouvoir prendre le rythme pour les barrages.
On va effectivement attendre de voir Carlo Ancelotti face à d'autres équipes que face à Burnley, parce que c'était pas non plus aujourd'hui un adversaire.
Justine, je m'en étais pas rendu compte, et hier, Julien, comme il m'a fait regarder, mais ils ont quand même une grosse équipe, Everton. Hein.
Everton est une très grosse équipe, absolument. Ouais. Alors, début de saison, on les annonçait comme outsider potentiel. Irimina en défense.
C'est Durson, il y a de quoi faire.
Ouais. Ouais. Effectivement, c'est une équipe qui est probablement pas à sa place et qui a des moyens. On va terminer sur Tottenham. Tottenham s'est imposé aujourd'hui. C'était un peu tiré par les cheveux. Il a fallu un magnifique retournement de situation grâce à Dele Alli en fin de rencontre et une première période très très compliquée du côté de Tottenham. Julien, avant de parler d'un cas particulier.
Ouais, première période très compliquée, tu l'as dit, même horrible, hein, limite horrible, même si Kane avait marqué un but d'abord pour donner l'avantage à Tottenham qui a été refusé par la VAR, logiquement d'ailleurs pour un hors-jeu, même s'il y avait quelques millimètres seulement, mais il était hors-jeu. Et puis ensuite Brighton a pris l'avantage. Brighton qui jouait très bien avec le ballon, c'est une équipe qui joue très bien au ballon, Brighton, depuis le début de la saison avec Graham Potter. Et c'est vrai que Tottenham a eu énormément de mal pour rentrer dans la rencontre, deux pour revenir dans la rencontre aussi, et il a fallu une meilleure seconde période, mais encore un petit peu tiré par les cheveux, encore un petit peu un jeu très mourinien finalement, où tu prends pas trop de plaisir à les voir jouer, t'as pas l'impression qu'eux prennent beaucoup de plaisir à jouer non plus ensemble. Et puis même s'ils s'en sortent encore une fois, un petit peu comme contre Wolverhampton lors du match précédent à l'extérieur, c'est vrai que c'est pas toujours très joli à voir.
Et il y a une personnalité qui pose question du côté de Tottenham, c'est Tanguy Ndombele, même pas dans le groupe aujourd'hui. Il y a un problème Ndombele à Tottenham?
Alors c'est un très bon débat à avoir ce soir. Ndombele a débuté un seul des 9 rencontres, toutes compétitions confondues, depuis l'arrivée de Mourinho. Alors on a posé la question à Mourinho après le match aujourd'hui, pourquoi Ndombele n'était même pas dans le groupe. Et Mourinho a répondu avec cette question. Je peux pas vous dire qu'il est blessé parce qu'il n'est pas blessé. D'ailleurs, après le match, l'un des adjoints de Mourinho, Joao Sacramento, l'ancien Lillois, a fait une petite séance d'entraînement sur la pelouse au Tottenham Stadium pour les joueurs qui ne sont pas entrés pendant le match de cet après-midi et ceux qui n'étaient pas dans le groupe, dont Tanguy Ndombele qui s'est entraîné tout à fait naturellement, qui a fait les sprints sans aucune gêne, qui s'est entraîné normalement. Et donc Mourinho a dit il est pas blessé, mais en revanche il est venu me voir hier pour me dire qu'il se sentait pas prêt à débuter la rencontre.
Ah bon?
Comme si visiblement psychologiquement il avait un problème par rapport aux blessures qu'il a pu avoir. C'était pas très clair ce que Mourinho avait expliqué, mais en gros Mourinho a dit il est pas blessé, mais simplement il m'a dit qu'il pouvait pas débuter la rencontre, qu'il pouvait pas jouer. Donc je l'ai pas pris dans le groupe parce que moi je peux pas avoir des joueurs qui sont pas prêts à 100% pour jouer un match de Première Ligue. Quand tu vois l'engagement et le côté physique et l'intensité des matchs de Première Ligue, ça me convient pas du tout. Donc Tanguy Ndombele, il y a clairement un problème. Alors est-ce que c'est psychologique dans sa tête parce qu'il a peur de se blesser? Est-ce que il est un petit peu fatigué? Est-ce qu'il se sent pas prêt? C'est très bizarre parce que c'est exactement le profil de joueur dont Tottenham a vraiment besoin en ce moment. Il manque de créativité, il manque de percussion au milieu, il manque de quelqu'un qui puisse franchir les lignes avec le ballon balle au pied. Tout ça, tout ce que Ndombele fait très bien, et pourtant il est même pas dans le groupe. Et c'est vrai que ça pose problème quand un joueur que tu viens de recruter pour 60 millions d'euros l'été dernier et qui, avec ton nouvel entraîneur, ne joue quasiment pas.
José Mourinho est quelqu'un parfois d'un peu buté. Est-ce que c'est pas sa façon à lui d'imposer sa patte? Enfin, est-ce que en Angleterre on échafaude des hypothèses quant au fait que Ndombele, bon, aujourd'hui on a une réponse visiblement, c'est celle de José Mourinho, mais il a pas joué sur les 8 matchs précédents. On échafaude des hypothèses sur le pourquoi?
On se pose la question effectivement pourquoi Ndombele a complètement disparu, parce que c'est vrai que quand il a joué sous Pochettino, lors des dernières semaines de Pochettino, il avait été très bon. Quand il a le peu de temps qu'il a joué avec Mourinho, il a aussi été assez bon. Le fait qu'il ait disparu comme ça, notamment aujourd'hui, même pas être dans le groupe, c'est vrai que c'est assez brutal. Alors Mourinho dit peut-être pas toujours la vérité non plus, un petit peu comme Mino Raiola tout à l'heure. On n'a pas le son de cloche non plus de Ndombele, comme tu viens de le dire. Il y a un problème, c'est sûr. Ndombele sous Pochettino avait plusieurs fois dit qu'il se sentait un petit peu fatigué, qu'il avait eu du mal à s'adapter à l'aspect très physique de la Première Ligue. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle il se sent pas complètement à 100% aujourd'hui? Peut-être. peut-être que Mourinho trouve qu'il manque d'investissement à l'entraînement aussi. Je sais pas encore. J'en ai pas parlé avec Tanguy lui-même, mais c'est vrai, c'est ça. Hein.
Tu sais, moi je pense que le problème, c'est peut-être tout simplement une question de style. Et il faut dire que le Ndombele qu'on connaît, alors je sais pas, je l'ai pas vu du tout avec Tottenham, donc je peux pas te dire. Mais le Ndombele qu'on connaît, qui joue à l'Olympique Lyonnais, c'est un joueur qui dans ses replis défensifs et dans ses efforts à la récupération, c'est quand même parfois un petit peu nonchalant. Et ça, je pense que Mourinho doit pas vraiment apprécier.
Oui, peut-être. Non, mais sûrement. Et puis c'est un jeune joueur qui a encore beaucoup à apprendre, comme on l'a dit, qui vient de la Ligue 1. Déjà en Ligue 1, il n'avait pas eu beaucoup de saisons derrière lui. Non. Qu'il arrive en première ligue comme ça et qu'il ait besoin de temps pour s'adapter, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il a souvent été très bon. C'est ça qui est assez difficile à comprendre. Que Mourinho lui préfère Moussa Sissoko, je peux comprendre. Mais que Eric Dyer ou Harry Winks, qui sont des escroqueries la plupart du temps où ils jouent. Non mais c'est vrai, soit titulaire à la place d'Ndombele, même si Ndombele effectivement dans le repli défensif parfois ça laisse un petit peu à désirer, j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi il n'entre pas dans la rotation un peu plus souvent de Mourinho.
Messieurs, c'est inquiétant pour l'équipe de France de voir Tanguy Ndombele disparaître du groupe. L'entendre dire que peut-être il s'adapte pas à l'aspect physique du jeu anglais, alors que c'est un des joueurs les plus physiques en France.
C'est inquiétant s'il sort des radars encore longtemps. Si par rapport à tout ce que vient de nous raconter Julien, puisque apparemment c'est pas d'ordre sportif purement et simplement, puisqu'il a été bon. Mais que ça touche à autre chose. Bon, alors, soit il reste au club, et puis avec un mec aussi borné que Mourinho, il va lui en faire payer les frais, donc on le verra quasiment plus. Je sais pas si Tottenham est encore qualifié en Coupe de la Ligue, Julien, donc pour qui.
Coupe de la Ligue, non, c'est fini. Coupe de la Ligue, ils sont éliminés.
On le verra plus, et sinon, il y aura un transfert.
C'est pas très grave pour l'équipe de France dans la mesure où c'est un remplaçant, quoi. C'est vraiment un genre de complément pour les Bleus.
Non. Oui, après, c'est un joueur de complément, effectivement.
C'est pas Tolisso, c'est pas Matuidi, ouais, c'est pas Pogba, c'est pas Kanté, tu vois.
Non, évidemment que c'est pas cela, mais après, est-ce que c'est un joueur sur lequel Deschamps peut être amené à compter dans un groupe pour l'Euro?
C'est pas impossible. Non, mais c'est vraiment la raison qui est surprenante.
C'est la raison qui est surprenante.
Ouais, il y a un gros mystère. Est-ce qu'on en saura plus après le 1er janvier? On verra bien, mais un transfert en vue, un retour à Lyon? Non, j'en sais rien, mais c'est vrai que
c'est assez
curieux.
Faut que tu creuses, là, Julien.
Ouais, faut creuser. Non, il a été titulaire, par exemple, contre Bournemouth, où il avait été plutôt bon, même si Tottenham avait mal commencé la rencontre. Et puis après, il a eu quelques soucis aussi, un peu aux ischios, à la cheville. Mais encore une fois, des soucis, clairement, qui pour Mourinho ne se justifiait pas trop non plus, et c'est assez bizarre. Et comme tu l'as très bien dit, François, le problème avec Mourinho, c'est que si tu rentres dans un genre de conflit, même un mini conflit sans vraiment le vouloir avec Mourinho, il peut très vite te mettre sur le côté, et puis là c'est terminé.
Non, et puis des pépins physiques, quand t'es joueur, t'en as tout le temps, à tous les matchs. Hein. Ça n'arrive jamais de jouer.
Surtout ici, surtout en première ligue.
Ouais, c'est clair.
Allez, une dernière question, Julien, pour parler de Chelsea, qui a encore calé à domicile contre Southampton. Elle est un peu en dentille, en même temps, c'est une équipe jeune. Est-ce que c'est la seule explication?
Et non, c'est pas la seule explication. Ils ont énormément de mal, notamment à domicile, contre les équipes qui viennent et qui jouent avec un bloc très bas, qui sont bien organisées, où tu as du mal à trouver des espaces, où tu as du mal à te créer des occasions, et qui eux, en revanche, vont aller très vite vers l'avant en contre-attaque. Exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Exactement ce qui s'est passé contre Bournemouth, où vous avez déjà perdu il y a 15 jours. Exactement ce qui s'est passé contre West Ham, où vous avez déjà perdu aussi, il y a quelques semaines. C'est les mêmes scénarios, qui se répètent à chaque fois pour Chelsea. Et j'ai vu Lampard après le match qui m'a dit, on travaille tellement à si tu savais, sur ce genre de situation-là contre des blocs très bas, et pourtant en match on n'arrive pas à reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. On manque de qualité dans la dernière passe, on manque de qualité dans le dernier centre, on n'arrive pas à perforer assez sur les côtés. Il avait commencé avec une défense à 3, il a vite repassé une défense à 4 à la pause avec le remplacement de Zuma par Mount, et ça a très peu changé. Ils se sont créés très peu d'occasions finalement, ils auraient facilement pu perdre 3 ou 4-0, donc c'est assez inquiétant. Ce qui est mieux pour eux, c'est qu'à l'extérieur, notamment dans les gros matchs, ils sont plutôt très bons. On l'avait vu contre Tottenham. Et puis là, dans 3 jours, le 29, ils vont à Arsenal. Donc ça devrait mieux se passer sûrement. Mais à domicile, c'est un vrai problème contre ces équipes-là qui viennent pour défendre avant tout et pour jouer en contre-attaque.
Ouais, mais en même temps, t'as une équipe qui est basée pour jouer le contre, avec les flèches devant d'Abraham, Willian et aujourd'hui c'était Hudson-Odoi. C'est vrai que dès qu'ils ne doivent pas faire le jeu, c'est là qu'ils sont plus à l'aise. Dès qu'ils n'ont pas le ballon, ils sont à l'aise. Il y a une fois qu'ils doivent, tu dis les matchs à l'extérieur, c'est là où ils réussissent le plus parce qu'ils les prennent en contre généralement.
J'attends.
Non, oui, non, mais... non, non,
non, non. Non.
Non, vas-y, Joe, vas-y.
Non, 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 pas du tout.
Alors, une question, moi, pour toi, Julien, et on conclura là-dessus. Olivier Giroud n'était pas dans le groupe. Quelles sont les informations en Angleterre sur Olivier Giroud? Là, en France, on entend parler de l'Inter, on entend aussi parler de Lyon, on entend parler des Rangers. Quelles sont les infos en Angleterre sur un potentiel départ?
Alors les infos c'est qu'il y aura départ. Après tout dépendra aussi combien d'argent voudra récupérer Chelsea pour un joueur qu'ils avaient acheté 15 millions d'euros environ à Arsenal. Il y a maintenant ça fera maintenant 2 ans au mois de janvier.
Il les a amortis en Europa League l'année dernière, non, les 15 millions.
Ouais, largement avec ses 11 buts, et il avait pris une part très importante dans la victoire finale de Chelsea. Tu as tout à fait raison. Lui espère naturellement et logiquement que Chelsea ne se montrera pas trop gourmand. Le problème peut-être c'est que si c'est l'Inter qui se positionne avec Antonio Conte, en sachant qu'Antonio Conte et Chelsea sont toujours en ce moment au tribunal pour savoir la compensation que Conte va récupérer de Chelsea après s'être fait virer l'été dernier, ça pourrait desservir dans un sens Olivier Giroud si Chelsea venait à demander un trop gros montant de la part de l'Inter pour justement embêter un petit peu Antonio Conte. Il faudra voir. Lui, tout ce qu'il veut c'est aller quelque part où il va jouer à un bon niveau, il aura du temps de jeu pour pouvoir arriver en forme optimum pour l'Euro, bien sûr, avec l'équipe de France. Ça conditionnera énormément le choix de sa future équipe, mais je pense qu'à Chelsea on le laissera partir sans trop de soucis.
Merci beaucoup Julien. Ouvre ton micro.
J'ai allé noter, il y a eu une journée de championships et Leeds a fait un match nul un petit peu, je dirais pas bizarre, mais ouais, ils égalisent dans les derniers instants. Et malheureusement, Brentford gagne, donc ils reviennent à 8 points de Leeds, qui est deuxième, toujours derrière West Brom, qui a aussi fait match nul. Donc on suit toujours la saison de Marcelo Bielsa en championship.
Merci pour ce point.
Ils ont 8 points d'avance sur le troisième, donc pour l'instant, ils sont pour la montée directe, c'est plutôt tranquille.
Brentford, ils étaient à 10 points avant la journée et là, ils ont gagné. Donc vu l'effondrement de la saison dernière, on est toujours un petit peu stressé, quoi.
Merci beaucoup, Julien. D'avoir été.
Merci à vous, les gars.
Bon courage avec l'enchaînement des matchs. On se retrouve très vite dans l'after.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.